Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Aujourd'hui, on reçoit donc le groupe spéléologique de Carpentras, en la personne de Gilles Druard, qui est son président. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Bonjour.
Accompagné d'Evelyne Crégu, qui est secrétaire donc de l'association, mais qui est également paléontologue et ancienne directrice du musée d'histoire naturelle d'Avignon.
Bonjour.
Bonjour Evelyne. Donc on va faire un petit focus sur l'historique de cette association, parce que je crois que c'est un club qui est assez ancien d'ailleurs.
Hein, oui, monsieur... oui, tout à fait. Donc il a maintenant 70 ans, depuis le 20 octobre 2018, donc une bonne année, si on peut dire. Il a été créé donc bien sûr le 20 octobre 1948.
En effet.
Donc, par des Carpentraciens, donc en partie par René Jean, qui a été président pendant de nombreuses années et qui a soutenu le club même chez lui, qui a fait au début c'était son lieu de prédilection, voilà. Par Robert Brun et puis par de nombreux spéléos anciens que je n'ai pas les noms en tête. Donc voilà, donc ils sont partis sur une conférence de Norbert Castoret, ancien spéléologue.
Oui.
Et donc suite à ça, ils ont commencé à explorer dans les monts du Vaucluse, c'est-à-dire les montagnes d'Albion, etc., dans les gorges de la Nesque et tout. Ils ont découvert de nombreuses cavités qui n'étaient pas connues à l'époque et qui étaient connues seulement d'un ingénieur des ponts et chaussées, qui a donné des indications à un spéléologue reconnu par tous les spéléologues, qui s'appelle Edouard Alfred Martel.
Ouais.
Et ils ont commencé à explorer ces cavités. Donc petit à petit, ils ont commencé à monter ce groupe-là. Et petit à petit, ils ont monté en puissance au niveau de ces personnes.
Les premières découvertes marquantes, c'était quoi?
Alors donc il y a eu donc découvertes comme que j'ai entendu parler qui c'était la veine de Rabas, donc qui était un gouffre qui était connu à l'époque à -140 mais qui était rebaptisé à -120. Après il y a eu la veine du pas dans l'ordre peut-être, on a eu la veine d'Aurel qui est à -110 du côté du village d'Aurel. Quelque chose de particulier, qu'on appelle la veine du château, qui fait -110 mètres, carrément l'ouverture de cette veine s'ouvre dans le village de Saint-Christol, c'est-à-dire sous une maison, et qui a été pris comme fosse septique pendant de nombreuses années.
Ah oui.
Ouais.
Quel dommage. Enfin, on ne pouvait pas savoir.
On ne pouvait pas savoir, mais bon, après, au niveau de... Donc, il y a eu pas mal d'eau qui est passée, bien sûr. Mm-hmm. Et maintenant, avec l'assainissement moderne, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune trace des anciens... des élections, si on peut appeler ça, de l'époque. Mais c'est vraiment dans le village, c'est-à-dire on ouvre une trappe sur le trottoir pour entrer. C'est une des particularités de cette avenue. Voilà. Et puis après, donc, ils ont fait plusieurs prospections, bien sûr, qui est au niveau autour de Sceaux, Aurel, etc., avec des petits avennes, qui a permis de faire beaucoup d'exploration dans le naturel. Voilà.
Alors, quand on dit spéléologie, ça consiste en quoi exactement? Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément en quoi ça consiste. Est-ce qu'il faut des compétences physiques particulières? Est-ce qu'on descend dans des gouffres seulement ou pas ou, voilà.
Alors, donc... Si on peut parler de spéléologie, c'est tout ce qui peut aller l'accès au monde souterrain. Alors on peut l'accès naturel, les accès aussi, on peut aussi donc dans les roches calcaires, mais souvent il y a aussi dans les roches granitiques, il y a parmi les volcans, il y a au niveau des glaciers, il y a eu des spéléos qui ont exploré des glaciers, des souterrains ont été explorés par des spéléos. Voilà, donc c'est vraiment une activité complète. Tout ce qui s'ouvre dès qu'il y a une ouverture souterraine et dès qu'un spéléo peut s'y aventurer, il s'y aventure.
Y compris les avennes immergées aussi, spéléo sous-marine, on va dire, c'est
un peu différent. Donc on a ce qu'on appelle les plongeurs souterrains, enfin des plongeurs spéléos, qui ont permis de faire une grande avancée au niveau de la recherche du monde souterrain. Donc, par contre, c'est une activité assez risquée, et c'est beaucoup de personnes expérimentées qui approchent cette activité-là. Il faut être sportivement complet, c'est-à-dire faire de la spéléo, faire de savoir manier les cordes et les agrès, et savoir faire de la plongée, et de la plongée par mois, parfois en eau profonde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent aller à moins 110, moins 150 mètres, et ce n'est pas n'importe qui.
Là, ça demande des compétences.
Voilà, ça demande des compétences. Donc, c'est vraiment un monde spéléo à part, si on peut dire. Voilà, c'est
On peut faire des découvertes très peu profondes, en fait, aussi.
On peut faire des découvertes très peu profondes. Il y en a qui se font tous les jours, si on peut dire, voilà, ou toutes les semaines, je sais pas comment, mais les spéléos trouvent toujours quelque chose à faire dans le terrain. Voilà. Il y a toujours à gratter.
Il y a toujours à gratter, et je crois que Evelyne, avant qu'on termine cette première partie, vous avez gratté des choses intéressantes dans le Ventoux, non ?
Ah, tout à fait.
Vous êtes spécialisée un peu sur la question.
Voilà, oui, de par ma spécialité de paléontologue, des grands vertébrés, c'est-à-dire surtout des mammifères contemporains des hommes préhistoriques, les spéléologues m'ont toujours amené les ossements qu'ils pouvaient éventuellement rencontrer dans les réseaux karstiques ou bien les avennes. Et un jour, j'ai eu l'agréable surprise de voir arriver des crânes d'ours bruns. Et ça a été le début d'une aventure double pour moi, paléontologique.
Trouvée dans le Ventoux. Hein,
trouvée dans le Ventoux, sur le flanc nord du Ventoux. Donc une aventure à la fois paléontologique, sportive, bien évidemment, ouais. Et je dirais aussi d'amitié, hein, puisque de ce fait, depuis 22 ans, j'ai commencé à pratiquer la spéléologie au sein du groupe spéléologique de Carpentras. Un sport que je ne connaissais absolument pas.
Et auquel vous apportez largement votre contribution par rapport à vos connaissances, puisque je le rappelle, vous étiez la directrice du musée d'histoire naturelle d'Avignon.
Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est en marge de ces activités, bien évidemment, que j'ai mis en place des chantiers de fouilles paléontologiques dans ce milieu qui peut paraître hostile, hein, pour la plupart des gens, qui quelque part, oui, a une... Enfin, voilà, on ne voit pas forcément le soleil, ça peut être humide, ça peut être froid, mais quand vous avez un trésor à découvrir qui n'est pas un trésor de monnaie, mais un trésor en ossements fossiles, ben écoutez, on se lance comme ça, là, on y va avec des étudiants, des collègues scientifiques, et évidemment épaulés par les spéléologues pour tout ce qui est technicité.
Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale et on reviendra après sur ces questions passionnantes de recherche.
Sans un mot, je m'efface. On prend de haut sans prendre de gants, ma confiance en suspens. Je m'incline sur la colline, tant de troubles m'agitent. C'est indécent comme ça me descend et m'abîme lentement. C'est comme une bouteille à la mer qui n'arrive à personne. « sonne. Si tu entendais les cris sourds qui résonnaient tout au fond de moi, je danse sur le bruit des tambours. Je ne suis plus la même qu'autrefois, même qu'autrefois. Danse.
Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Donc nous sommes toujours avec le groupe spéléologique de Carpentras, donc en la personne de Gilles Truard qui est président, qui nous a présenté l'association, et Evelyne Crégu, donc secrétaire de l'association, paléontologue, ancienne directrice du musée d'histoire naturelle d'Avignon, et qui était en train de nous expliquer que des ossements d'ours avaient été trouvés dans le Ventoux.
Et oui, ça a été une découverte pour moi tout à fait sensationnelle. Non pas parce que l'espèce, il s'agit de l'ours brun, est une espèce rare dans les sites paléontologiques ou archéologiques, mais en général, on avait toujours quelques ossements. Hein. Et là, j'avais des squelettes entiers. Je dirais, qui m'attendaient au fond de pièges naturels qui ont émaillé donc le flanc nord du Ventoux. Et ces ours bruns qui étaient présents jusqu'au néolithique, je dirais assez abondants hein, au cours de la préhistoire, enfin en fonction évidemment du climat, parce qu'à certaines périodes, ils n'étaient pas trop abondants quand il faisait trop froid. Mais à partir du néolithique, on commençait à voir leur population diminuer de par l'impact de l'homme sur l'environnement avec les déboisements, l'élevage, donc un conflit permanent entre grands prédateurs et hommes. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît encore de nos jours. Ouais. Et ces ours bruns, au fur et à mesure, se sont retrouvés dans des zones, je dirais, un peu plus inhospitalière pour l'homme. Et les sites du Ventoux ont permis de voir, enfin de savoir que cette espèce était présente jusqu'au Moyen-Âge dans notre région. Alors on avait quelques écrits qui le signalaient, mais là on avait, je dirais, l'objet lui-même
qui atteste
qui attestait
présence,
de cette présence. Voilà, donc le début de l'aventure spéléologique a débuté comme ça en ce qui me concerne. Alors c'est vrai que tout à l'heure, on a un petit peu évoqué le volet sportif hein, de cette discipline. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je travaille dans des petits avennes parce que ce sont des avennes pièges. Les grands gouffres, en général...
Quand on dit des avennes pièges, ça veut dire des cavités dans lesquelles les animaux sont tombés accidentellement.
Voilà, absolument, sans intervention de l'homme. Donc nous avons, dans un premier temps, commencé à travailler sur ces gisements à ours brun. Et puis ensuite, l'intérêt s'est déplacé en bordure du plateau de Sceaux sur des tout petits avennes, que je connaissais, un que je ne connaissais pas. Le premier était connu pour avoir livré un squelette entier de renne, une espèce de climat froid. Oui, le renne que l'on connaît, enfin que les enfants connaissent bien, puisqu'il s'occupe du traîneau du Père Noël.
Ah bah en effet.
Voilà, mais là, en l'occurrence, c'était donc un animal qui était tombé accidentellement lors d'une période très froide. Et puis ensuite, on est allé travailler sur un autre site où ça va faire depuis donc 2007, oui, qu'on est sur le Coulet des Roches. sur la commune de Monieux, mais en bordure du petit village de Saint-Jean-de-Sault, où là, c'est une faune complètement différente. C'est une faune qui a enregistré le témoignage des derniers grands froids de la période quaternaire, qu'on appelle le Pléistocène, en l'occurrence. Et là, on a des chevaux, beaucoup, beaucoup de chevaux, puisqu'on en a 17, ce qui est absolument unique pour le sud-est de la France, avec un petit peu de renard polaire, un tout petit peu de renne, un oiseau que l'on ne trouve plus aujourd'hui que dans le Grand Nord, qui est le harfang des neiges, une espèce de chouette toute blanche, et puis des rongeurs, pareil, que l'on ne retrouve plus que dans le Grand Nord de l'Europe.
Ah oui, une faune vraiment spécifique.
Ah oui, très très spécifique des grands froids. Et donc, eh bien, nous continuons à travailler sur, dans ce petit aven.
Et aujourd'hui, les recherches se poursuivent encore sur d'autres sites ?
Alors oui, parce que évidemment, quand on est passionné, on ne sait pas s'arrêter. Donc, il y a d'autres endroits, notamment de par ma spécialité, j'ai rejoint la commission scientifique de la Fédération française de spéléologie et en conséquence, je suis beaucoup plus sollicitée par les collègues spéléologues et notamment je fais des petites expertises quand on trouve des ossements. Et parmi un des projets, c'est d'aller travailler dans le Var pour extraire, de façon à ce que ça ne soit pas altéré, des ossements d'ours, là aussi, d'ours bruns, qui ont été découverts fortuitement par un groupe spéléologique varois. Voilà, donc on n'arrête pas.
Il y a sans cesse des lieux que vous découvrez comme ça au hasard ou c'est comment ?
C'est toujours le hasard, parce qu'on ne peut pas savoir quand on fait de la spéléologie que l'on va tomber sur un site qui a préservé le témoignage d'une vie passée. Il faut simplement que les spéléologues aient un œil averti pour voir qu'il y a du matériel osseux. Ça peut être des dents, ça peut être des ossements. Et qu'ils aient le réflexe de prendre quelques photos et de collecter éventuellement une ou deux pièces pour que les spécialistes puissent donner leur avis. Parce que je ne suis quand même pas la seule en France à travailler sur cette thématique. Dans la région Grande-Aquitaine et Occitanie, il y a à l'heure actuelle des projets d'études qui sont faits par des collègues pour travailler dans les avennes pièges. De même, en bordure des Alpes, il y a aussi des programmes qui sont en place.
Mais vous avez une connaissance quand même particulière qui permet d'être suffisamment vigilant dès lors qu'on découvre quelque chose. Vous avez le regard professionnel, en fait.
Bien sûr, bien sûr. On est obligé de savoir rapidement, quand on vous présente une pièce, de savoir à quel animal elle appartient, de voir si c'est du matériel fossilisé ou pas. Ça fait appel à une expérience qu'on arrive à acquérir au long des années.
Sinon, vous avez des projets particuliers ou des souhaits de voir développer d'aller chercher dans un lieu précis qui reste encore méconnu
Il y a énormément de lieux méconnus. Donc, c'est vrai qu'on souhaite tous avoir des découvertes spectaculaires. Donc, moi, je suis toujours, je dirais, l'œil aux aguets quand on me ramène du matériel en me disant peut-être que là, je vais découvrir, pourquoi pas, un homme fossile, un homme de Néandertal. Il faut quand même rêver.
Et la découverte qui vous a le plus ému, alors ?
Alors, la découverte qui m'a le plus ému, c'est sur le flanc nord du Ventoux, dans un tout petit aven, où on a fait ce que l'on appelait de la désobstruction, c'est-à-dire que le conduit était obturé par des fragments rocheux. Donc on enlevait ces fragments rocheux pour voir s'il y avait une continuité. Et on m'a fait passer dans les mains un objet qui était un sternum, c'est-à-dire l'ossement que vous avez au niveau de la poitrine et sur lequel s'appuient les côtes, qui appartenait à un chamois, et il y avait une flèche en bronze qui était fichée dans ce sternum. Voilà, le témoignage d'une chasse ancienne au chamois.
Ah, donc on va faire une petite pause là, parce que vraiment c'est fort, et on revient dessus après. Come on, let's get away. A million miles away. Oh, it's a mission. Come on, let's get away. Baby, go mission. A million miles away.
Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Donc nous retrouvons les représentants du groupe spéléologique de Carpentras en la personne donc de Gilles Druard et Evelyne Crégu qui étaient en train de nous expliquer avant la pause une découverte quand même qui avait provoqué pas mal d'émotions de sa part. Elle avait découvert un chamois, mais un peu curieusement quand même.
Et oui, puisque ce chamois a été chassé il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ par un lointain chasseur de cette période qu'on appelle le Bronze Moyen. Et cet animal a survécu. Alors comment peut-on savoir qu'il a survécu ? Tout simplement parce que autour de la flèche en bronze, l'os s'était reconstitué et avait englobé cette flèche en bronze. Et cet animal, beaucoup plus tard, est tombé accidentellement dans la veine où nous l'avons découvert.
Il a échappé à une flèche et est tombé et stupidement dans une... Et oui. Dans un aven, quel dommage.
Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, par contre, au niveau paléontologique, c'est une découverte.
C'est une richesse extraordinaire.
Oui, majeure, parce qu'on sait que l'homme de ces périodes pratiquait la chasse aux ongulés sauvages. Mais là, on en a une preuve tangible et c'est la seule preuve que l'on ait aujourd'hui en Europe occidentale de ce type de chasse.
Donc c'est vraiment exceptionnel.
Ouais. Exceptionnel.
Effectivement. Dans cette dernière partie, on va peut-être parler un petit peu des orientations de l'association. Vous nous disiez un petit peu qu'il y avait une évolution vers le canyoning, vers autre chose.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors moi, je ne le pratique pas, donc, et je crois que notre président non plus. Mais nous avons, je dirais, les canyons, je pense que tout le monde doit savoir à peu près ce que c'est. Ce sont des ouvertures de je ne vais pas dire de gouffres, de vallées assez étroites, en général encadrées par de grandes falaises. Oui. L'eau peut courir au milieu donc, de ces vallées, de ces canyons. Et à l'heure actuelle, on développe de plus en plus, au niveau de la Fédération française de spéléologie et des comités départementaux qui donc, relèvent de cette fédération, les descentes de canyons. Alors, à la différence de la spéléologie, on ne remonte pas le canyon. Parce qu'en spéléologie, évidemment, une fois que vous êtes en bas, il faut ressortir. D'où l'intérêt d'avoir quand même une bonne forme physique pour le faire. Mais là, en l'occurrence, donc, on va descendre, mais ça se fait avec donc, des techniques sur corde. Je ne sais pas si notre
à vocation
président...
essentiellement sportive, alors.
Oui.
Oui, ben le canyon c'est que de la descente et donc c'est mixte entre les techniques de spéléo et les techniques de montagne. Donc on emploie souvent des descendeurs de montagne avec des cordes de montagne des cordes adaptées maintenant puisque beaucoup de cordes de canyon sont adaptées mixtes montagne et spéléo. Voilà, c'est pas là avec des puisque les cordes trempent beaucoup dans l'eau, elles sont hydrophiles et donc elles permettent donc après c'est vrai qu'on fait que de la descente et c'est pas la même chose que mais c'est un plaisir donc c'est vraiment ludique au niveau des et c'est pour les enfants, pour les personnes qui aiment jouer dans l'eau, c'est vraiment intéressant. Voilà.
Et surtout, c'est à l'air libre.
Et c'est à l'air libre.
Oui, c'est voilà, pour ceux qui sont claustrophobes, oui, ça peut être intéressant. On peut pratiquer dans votre club à partir de quel âge ?
Alors, donc, au niveau du club, donc, c'est au niveau, donc, la plupart du temps, on dit vers les 15 ans, mais c'est suivant la forme physique et les connaissances de la personne. Mais à partir de 10 ans, ils peuvent approcher la spéléo. Oui. Donc, après, donc, il y a des journées d'initiation que l'on peut faire au niveau du club, ou même on peut se rapprocher au niveau des spéléos du Vaucluse, qui peuvent aussi faire de l'encadrement, nous aider au niveau de l'encadrement. Voilà, donc le spéléo et canyon.
Donc quelqu'un qui serait intéressé, vous avez un contact, un lien, une adresse
Eh bien, donc on a l'adresse, donc mon adresse, donc Gilles Ruard, donc, et l'adresse, l'email, c'est gilles.ruard3@orange.fr.
Druard, D-R-U-A-R-T.
T, hein, ouais. Après, on peut se rapprocher peut-être de la radio.
De la radio, voilà. Ou faire groupe spéléologique de Carpentras.
Oui, et après, et au niveau de la ville de Carpentras, sur le, au niveau des associations, donc on est référencé.
Sur y a le guide des associations. Guide,
oui. Tout à fait, oui. Donc on peut se rapprocher au niveau du site internet de la ville de Carpentras.
Aujourd'hui, le club, c'est combien d'adhérents ?
Alors, c'est très peu, c'est une 13, 15 personnes. Donc, c'est vrai que la spéléo, par son côté sombre, si on peut dire, n'attire pas beaucoup de personnes. Le niveau associatif aussi est un petit peu en déclin au niveau de tous, généralement. Je ne parle pas que de la spéléo, bien sûr, là. Donc, c'est difficile de faire rentrer des personnes, sauf que en spéléo, il faut partir une journée. C'est-à-dire que, bien sûr, une personne qui part, c'est une activité de loisir en plein air. Il n'y a pas la douche à la sortie. C'est-à-dire
que
la douche,
c'est agréable de passer une journée entière. Agréable,
voilà, tout à fait. Ouais, oui.
Donc, mais il faut accepter de consacrer un certain temps.
Il faut accepter, comme toute association bénévole, il faut accepter de passer du temps au niveau de l'association, donc, c'est-à-dire au niveau des sorties, et s'occuper aussi de l'association, bien sûr, si c'est possible.
Vous avez des journées découvertes qui permettent un peu de découvrir ce en quoi ça consiste.
Alors suivant lorsque les personnes rentrent demandent une initiation au club, c'est à la demande. Donc on se permet, on n'est pas une ce qu'on appelle une association de guides, on n'est pas une association de qui permet d'encadrement de gros groupes. Donc c'est 4-5 personnes qui peuvent
être encadré.
Ça tient également aux lieux dans lesquels on se rend, de toute façon.
Tout à fait. Et c'est toujours très adapté. On adapte les sorties en fonction des capacités des personnes. Mm-hmm. Et les premières sorties sont toujours des sorties découvertes avec pratiquement aucune progression sur corde. Hein. On fait ça sur, en général, de l'horizontale pour que les gens voient ce qu'est le milieu. Hein, et à partir de là, quand ils sont intéressés, on leur refait faire d'autres sorties. Mais chaque année, au mois d'octobre, il y a les journées nationales de spéléologie qui sont organisées sur l'ensemble du territoire français, qui permet aux personnes aussi de voir un petit peu ce qu'est cette pratique.
Donc une information qu'on peut retrouver sur ce site.
Que vous pouvez retrouver sur
votre site.
Mais c'est surtout sur le site du comité départemental de spéléologie de Vaucluse, c'est-à-dire CDS 84. Et là, il y a toujours des informations. Il y a la liste de tous les clubs du département, tout ce qui est programmé aussi au niveau de la Fédération française. Voilà.
D'accord. Donc, je rappelle qu'on était avec le groupe spéléologique de Carpentras, avec Gilles Druard, son président. Merci, Gilles, pour cet entretien. Et Evelyne Crégu, donc paléontologue, qui nous a fait part de choses vraiment passionnantes. Et je vous remercie, Evelyne.
Merci.